Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver pour une nouvelle semaine d'entretien. Tous les soirs, par les temps qui courent, écoute les artistes pendant une heure. Ce soir, c'est Laurent Godet.
Un tango, une danse, un baiser.
Si tu peux taper, péter, péter.
Par les temps qui courent.
Ça y est, tu vas t'y mettre.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Moi, Malaka, fils élevé dans le désert par une mère qui parlait aux pierres, je vais raconter Salina, la femme aux trois exils. Je vais dire ma mère qui gît là, au fond de la barque, et le monde qui apparaîtra sera fait de poussière et de cris. À l'époque où le monde a accueilli sa vie, il y avait une enfant venue de nulle part. Elle est née loin, Salina, si loin que personne ne connaît le lieu exact, ni de qui elle fut l'enfant, pas même elle. Dans le dernier livre que vous publiez aux éditions Actes Sud de Laurent Godet, c'est à un fils d'être un temps celui qui raconte la vie de sa mère et dans son sillon, la vie de certains autres. Une haute affaire de dignité et de paix que cette histoire-là, une offrande aussi à ce monde qui a tant besoin de récits. Bonsoir Laurent Godet.
Bonsoir Marie.
Merci beaucoup d'être là.
Merci à vous.
Salina, Les Trois Exils, c'est un roman donc publié aux éditions Actes Sud et on vous reçoit ce soir à l'occasion de cette parution, mais aussi dans le cadre d'une journée entière que France Culture consacre au 70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Toute la journée, Sylvie Granotier a lu article par article cette déclaration, peut-être pour la mettre en tension, en dialogue avec le temps que nous traversons. Il se trouve que j'ai repris comme ça quelques-unes des tribunes que vous écrivez en dehors des pièces de théâtre et des romans. Et finalement, ce sont des choses auxquelles vous faites écho de manière directe ou de manière détournée. Et je parlais de dignité, mais c'est quelque chose qui revient très souvent dans ce que vous publiez. Qu'est-ce que vous avez comme relation avec ce texte-là, si vous en avez une, Laurent Godet ?
Ben j'ai effectivement ce en quoi je crois, c'est-à-dire que ce texte est une sorte de baromètre, c'est-à-dire je ne pense pas qu'on arrivera jamais à une période où toutes les cases seront cochées et on pourra dire ça y est, le travail est terminé. Je pense que le combat pour les libertés individuelles, pour les droits de l'homme sur la planète est un combat permanent. Il n'y a aucune époque qui a été apaisée, heureuse et tranquille. Simplement, ça nous permet peut-être à chaque fois, à chaque génération, de dire dans quel secteur on a régressé, qu'est-ce qui définit notre époque au fond. Et ça, c'est pas rien, mine de rien, parce que ça délimite déjà les territoires du combat.
Souvent, on a pu entendre ces derniers temps parler d'un clan droit de l'homiste un petit peu moqué ou légèrement... On a pu rigoler de ce combat-là. Il a pu être réduit à quelque chose de très gentil, très, très gauchistement gentil. Comment regardez-vous cette manière de peut-être dévaluer l'idée que c'est un combat encore à mener ?
Ben je regarde ce point de vue-là avec consternation, c'est-à-dire que c'est une des critiques qui est faite régulièrement, c'est facile à dire, ce sont des bons sentiments, etc., etc. Sauf que l'avancée dans certains domaines de l'antithèse des droits de l'homme montre que c'est pas un combat vain, montre que il faut monter au créneau, alors chacun le fait comme il peut. C'est vrai que des phrases ne changeront pas le sens du monde, mais en même temps, si on se teste encore pire, je prends juste un exemple avec la torture, moi on m'a déjà dit, mais enfin tu écris un texte sur la torture, mais qui est pour la torture? Alors je peux tout à fait entendre ça.
Tout à fait, référence notamment à une tribune, enfin à plusieurs textes, mais à une tribune qui avait été publiée en 2014.
Absolument, absolument. Et c'est vrai que en l'écrivant même, cette tribune, on se dit bon, mais c'est un combat consensuel. Sauf que non. Sauf que la torture se porte bien. Sauf que la torture fait des progrès. Sauf que les États-Unis ont validé l'utilisation, par exemple, de la pratique du waterboarding. Donc tout ça, ce sont des signaux qui montrent qu'en fait, c'est pas gagné et que même on recule. Alors à partir de là, il me semble que du coup, ce combat-là, parmi tant d'autres, redevient pleinement légitime et qu'on n'est pas des belles âmes. Non, c'est pas vrai.
Ça s'articule pour vous comment l'écriture de ce genre de texte, éventuellement une action plus concrète, Laurent Godet, et votre travail en littérature et en théâtre ? C'est deux endroits très distincts.
Oui, et du coup, ça n'est jamais sans frustration et sans friction, parce que je suis très admiratif des gens qui arrivent à le faire davantage que je ne le fais.
Lequel des deux boulots ?
L'implication, l'écriture de tribune, la participation au débat politique. J'ai du mal à faire tenir tout ce que j'aurais envie de faire dans une journée. Et il y a un moment donné où c'est vrai que c'est en concurrence, très concrètement. Et en plus, j'écris lentement, il me faut du temps. Et plus le texte est court, et plus ça me prend du temps. Donc c'est vrai aussi que j'ai du mal à écrire au rythme de l'actualité, ce qui me pénalise pas mal pour cette participation au débat public. C'est-à-dire que souvent, les journaux, quand il y a un créneau possible, c'est pour hier. Donc il faut être capable d'écrire vite, d'écrire en réaction à ce que produit le monde. Et moi, je me rends compte que de ce point de vue-là, je suis vraiment un romancier, c'est-à-dire j'ai toujours une espèce d'écriture lente.
C'est ce que j'allais vous poser comme question. Est-ce que ça dit des choses de votre rapport à la langue ou est-ce que ça dit des choses du rapport au monde ?
Je pense que ça dit des choses du rapport au monde. Je pense que jusqu'à présent, ça peut-être changer, mais mon rapport au monde est dans cette espèce d'ambivalence, de désir d'y être, d'en être, d'y être plongé, et de difficulté à le faire pleinement, parce que j'ai aussi besoin d'être un pas à côté, un peu en retrait. Et voilà, c'est ce mouvement-là, en fait, finalement me définit, je crois.
Il y a évidemment beaucoup de choses dans ce texte de la Déclaration universelle des droits de l'homme, et puis il en fut question pendant toute cette journée sur notre chaîne. Néanmoins, je disais tout à l'heure le mot dignité. Je pense que c'est un mot qui est assez important, la reconnaissance de la dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine. Je dirais que c'est aussi un mot assez important dans votre œuvre littéraire. Comment est-ce qu'il sonne dans votre vocabulaire de romancier, le mot dignité ?
Je pense qu'effectivement, c'est une des choses qui m'amène à mes personnages. C'est-à-dire que ils sont souvent plongés dans la tourmente. Le roman ou le texte, que ce soit une nouvelle ou un roman, est souvent le moment où leur vie est chamboulée, où ils sont plongés. Alors ça peut être une guerre, ça peut être un cataclysme naturel, ça peut être un moment, en tout cas exceptionnel au sens propre du terme, qui fait qu'ils sont mis à nu. Donc il y a de la violence, il y a du conflit, ça tangue un peu. Et au fond, ce que je vais chercher du coup, c'est le moment qui, moi, me bouleverse, où malgré tout cela, les personnages restent debout et ont encore la force de dire ce qu'ils traversent, parce qu'ils ont toujours cette force-là dans ce que je fais, en fait, parce que c'est ça qui me touche, c'est le moment où les mots sont quand même prononcés. Je trouve que c'est ce qui est le plus bouleversant dans la tragédie, par exemple, dans la tragédie grecque, c'est que même si, d'un point de vue factuel, c'est une dévastation totale, les personnages qui sont sous nos yeux ont tout perdu, et bien pour autant, ils ont encore la force de le dire. Et en fait, la beauté naît de cela, c'est-à-dire que les mots qu'ils prononcent à l'occasion d'un monologue, à l'occasion d'un récit, à l'occasion d'une complainte, sont des mots de beauté, malgré tout. Donc c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup. Ouais.
On reviendra évidemment sur votre attachement à la tragédie et à la tragédie grecque, Laurent Godet. Mais tout à l'heure, je disais, c'est un texte qui se pense aussi comme une offrande de récit au monde qui en a tant besoin. Je paraphrase à peine les choses que vous écrivez. Vous pensez que c'est le cas ? Tout à l'heure, vous avez dit se taire, c'est pire que parler, que le monde a besoin des mots, le monde a besoin d'histoires qu'on lui raconte.
Ah, non seulement je pense que le monde a besoin des mots,
et que le mot a besoin du monde aussi.
Absolument, mais en plus qu'il a besoin de mots différents. C'est-à-dire que on est dans un monde, dans les sociétés en tout cas occidentales, où il y a beaucoup de mots. Les mots journalistiques, les mots politiques, les mots publicitaires, les mots du monde, comme ça, il y en a énormément. À un moment donné, on a aussi besoin des mots de la poésie, je crois des mots de la fiction, je crois des mots du roman, non pas parce qu'ils seraient meilleurs que les autres, mais parce qu'ils viennent compléter le kaléidoscope et que surtout ils disent des choses que les autres ne diront jamais, parce que c'est pas leur champ lexical, c'est pas leur objet. Donc oui, sur le fracas du monde, sur le fait que le monde redevient anxiogène un peu en ce moment, la politique se réinvite dans nos existences, et quand elle le fait, c'est jamais confortable, c'est rarement joyeux, c'est quand même souvent un tumulte.
Je pense. C'est pas forcément mauvais signe.
Non, bien sûr, mais c'est pas Mais c'est rarement dans le confort, quand même. Et je pense que, de ce point de vue-là, oui, les poètes ont leurs mots à poser là-dessus, parce que ce seront des mots peut-être moins directement utilisables, mais qui ont une épaisseur. Je parle en tant que lecteur, hein, encore une fois. Moi, je rêverais que Pasolini nous parle de ce que nous sommes en train de traverser. Ça me ferait du bien, je crois. J'aurais envie qu'Aimé Césaire nous parle un peu du monde dans lequel on vit aujourd'hui. Ces voix-là sont importantes. Et plus précisément, puisqu'on parle des droits humains, il y a aussi on parlait des combats déjà gagnés, soi-disant. C'est important aussi de désigner les zones où il va falloir dire des choses. Je pense que il y a la montée d'un nouvel autoritarisme, par exemple en Europe, chez nous, et qu'il va être important d'opposer des mots à cette chose-là. Parce que du coup, on a besoin d'une nouvelle dissidence, et d'ailleurs je pense au mouvement Les Nouveaux Dissidents, c'est pas un hasard si ces choses-là naissent en ce moment. Il y a de nouvelles menaces, tout simplement, qu'il faut d'abord nommer, et ensuite auxquelles il faut opposer des mots. Alors on nous dira toujours que ce sont des mots de bien-pensance et d'humanisme. J'ai toujours considéré que l'humanisme n'était pas niais, qu'on peut être dans un combat humaniste.
Mais alors, comment on fait pour opposer des mots quand vous dites, Laurent Godet, que vous mettez longtemps à les écrire et à les trouver? Ça veut dire que forcément on arrive un peu après, un peu en retard?
Toujours. Enfin, en ce qui me concerne, ce sera toujours le cas. Mais oui, je pense que les romanciers ne vont pas au même rythme que le monde. En même temps, ces combats-là ne se mènent pas à l'échelle d'une vie humaine. Donc on ne fait qu'accepter l'idée qu'on passe le relais aussi à ceux qui suivent.
Je voudrais revenir précisément pour finir cette grande introduction avec vous, Laurent Godet, sur ce que vous venez de dire, à savoir produire des mots un petit peu moins directement utilisables. Ça me paraît être une parole importante. Vous méfiez d'écrire des choses qui peuvent être très directement utilisées?
C'est aussi une raison pour laquelle j'ai ce problème de tempo vis-à-vis de la sollicitation du monde dans lequel je vis, qui encore une fois me passionne, m'intéresse et à laquelle j'ai envie de participer.
Oui, c'est pas incompatible.
Mais c'est vrai qu'à chaque fois, j'ai cette espèce de doute de me dire, et si on laissait passer 5 jours, est-ce que j'écrirais la même chose? Et souvent, on se rend compte que non. Parce que d'abord, l'actualité va tellement vite que 5 jours plus tard, un nouvel élément est venu rentrer dans la danse et est peut-être plus pertinent que le premier. Soit parce qu'il a aggravé la situation, soit parce qu'il l'a pondéré. Donc il y a toujours ce moment-là. Je pense que quand on participe au débat, il faut faire son deuil de cette question. On ne peut pas être pleinement juste, on est juste au moment où on le fait. Mais c'est vrai que moi, j'ai toujours cette petite réticence, et ça fait partie de la difficulté de s'inscrire dans le cours des choses, en fait.
Alors, on va rentrer dans Salina, et on va rentrer par le conte et le récit avec cette archive de Pascal Quignard.
C'est difficile de publier des contes, parce que les contes, à partir du XVIIe siècle, se sont trouvés, manipulés en direction de l'enfance, alors, comme le disait Georges Dumézil, on ne verra jamais, qui Dieu sait, un lecteur de mythes et de contes, jamais il n'a pu faire la différence entre des res gestae, des contes et des mythes. C'est toujours ces histoires absolument à la limite, si vous voulez, du rêve. Les rêves sont des narrations par séquences d'images dirigées. Les contes sont les premières narrations à l'aide du langage qui relaient un peu les rêves. J'ai un plaisir fou à écrire des contes. Mais où les mettre? Le conte permet de prendre en effet à n'importe quel désir, le couteau, de faire tomber l'orage, on peut faire ce qu'on veut à toute allure. Il y a une liberté, pas du tout enfantine, mais sauvage dans le conte, comme dans le rêve, qui souvent d'ailleurs est assez effrayant dans les rêves.
On est en 2009, Pascal Quignard est au micro d'Alain Weinstein dans l'émission du jour au lendemain sur France Culture. Laurent Godet, est-ce que le mot conte est un mot qui vous satisfait pour parler de ce texte et pour parler d'autres textes, sachant que c'est le mot roman qui est en couverture?
Oui, et j'ai toujours eu un petit problème avec le mot conte, en fait. Pour la raison qu'évoque Pascal Quignard, c'est qu'effectivement, peut-être à tort, mais j'y vois le côté manipulé. C'est-à-dire que...
En direction de l'enfance, précisément.
En direction de l'enfance, et avec cette idée que la plupart du temps, je sais qu'il y a quelques exceptions, mais la plupart du temps, le conte déploie un abîme et puis le referme à la fin. Alors, et plus les contes sont récents, et plus c'est vrai, je pense. C'est-à-dire qu'à la fin, le monde retrouve son ordre et arrive le moment où, au fond, ce qui nous est délivré, c'est une morale qui retombe sur ses pieds, à but pédagogique. Alors ça m'est très étranger, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est-à-dire que ce qui est commun entre conte et mythe, je crois que c'est de s'approcher de l'abîme, et de l'évoquer, de lui laisser la place, de prendre le temps de dire et de prendre conscience que l'abîme est en nous, en chacun d'entre nous, et que c'est un socle commun à l'humanité. Mais la tragédie grecque, par exemple, laisse l'abîme ouvert à la fin, et nous laisse avec la pleine ouverture. Ça, je trouve ça plus vertigineux, plus fascinant, et au fond plus juste. C'est que l'abîme ne se referme jamais en chacun d'entre nous. C'est bien pour ça qu'on doit interroger ces choses-là en permanence.
Quand vous dites que l'abîme est un socle commun à toute l'humanité, ça m'amène à cette question du décor qu'on a souvent dit, pour vos textes et pour Salina, être une sorte d'Afrique fantasmée, Afrique préhistorique, etc. J'avoue que moi, en lisant Salina, j'ai été plutôt du côté très abstrait. Puis j'ai en effet été ramenée du côté de ce qu'on pourrait appeler l'Afrique, avec des mots, Mambala, Sissoko, certains décors. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Est-ce que vous êtes du côté du socle commun de l'humanité, ou est-ce que ça vous intéresse que ce soit situé?
C'est pas un intérêt avec une stratégie derrière, c'est un intérêt vraiment, alors là, extrêmement subjectif, d'imaginaire. C'est que cette Afrique-là, qui, je précise pour les auditeurs, n'est pas du tout ni l'Afrique d'aujourd'hui, bien évidemment, ni même une période historique de tel ou tel pays africain. C'est vraiment une Afrique fantasmée, en fait, imaginaire, construite de briques et de brocs de ma part, en ramenant des éléments de civilisation qui parfois n'appartiennent même pas au continent africain. Mais effectivement, il y a cette consonance de certains noms, et puis il y a aussi le fait que moi, c'est terres-là imaginaires et imaginées qui sont des territoires d'écriture dans lesquels j'ai envie de poser mes personnages et inventer des histoires, mais tout simplement parce que ça les suscite, ces images. Et c'est le premier choc de ça a été la vision du film Médée de Pasolini, où tout d'un coup, en voyant son film, je me suis dit, mais en fait, moi, pour ce pays-là, qu'il nous montre, moi j'ai plein d'histoires à raconter qui peuvent aller dans ce pays. Et quand on regarde de près ce pays en question, le pays pasolinien, si je puis dire, il est fait à la fois de petits bouts de Syrie, d'Afrique noire, de Maroc. Il a été tourné à Pise, Médée aussi. Donc en fait, c'est pas du tout l'Afrique, c'est juste une antiquité mosaïque.
Et qui est quoi, une liberté de l'écrivain? Je dis ça aussi en conscience des bases actuelles sur l'appropriation culturelle, sur la manière de éventuellement s'approprier des imaginaires qui ne seraient pas les nôtres, d'imaginaires occidentaux. Vous, c'est ce territoire complexe et composite qui est votre liberté?
Oui. Oui, et par rapport, par exemple, à la question qu'on évoquait tout à l'heure des droits humains, d'écrire en réaction au monde, moi j'ai toujours alterné, en fait. Je m'en rends compte maintenant qu'un peu de temps a passé, je le vois en regardant dans le rétroviseur, il y a des livres, il y a des romans, il y a des pièces de théâtre qui ont été vraiment écrites en réaction au monde dans lequel nous vivons. Et puis il y a ces échappées-là, comme mon deuxième roman qui s'appelle La mort du roi de Songor ou Salina aujourd'hui. J'ai pas envie de renoncer à ces moments-là où tout d'un coup le monde contemporain n'est pas directement, c'est pas le matériau de départ. J'espère qu'il vibre avec l'histoire que je raconte, mais en tout cas, c'est pas de lui dont je me nourris. Et pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que ce territoire? Il y a quand même, on touche là à ce qui fait aussi un peu la magie de l'inspiration. Pourquoi est-ce que tout d'un coup, pourquoi est-ce que le mot Babylone, moi, me donne envie de trouver une feuille et un stylo très vite? Je sais pas. Je saurais jamais, mais de fait, ça m'inspire. Et je pense qu'il faut respecter ces choses-là et aller dans leur sens, parce que le contraire serait, on peut pas fuir cette chose-là. Ça serait absurde de dire oui, mais comme c'est pas actuel, je vais pas raconter cette histoire là-dedans. Je vais essayer de la rendre plus contemporaine et je vais mettre tout le monde en jean et en basket. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'il faut aller du côté du fleuve puisque c'est le mien, c'est un des miens. Et puis il y a d'autres histoires qui seront racontées ailleurs et autrement.
Salina, au départ, c'était une pièce de théâtre.
Oui.
Est-ce qu'il y a, dans le fait de le reprendre, ce texte, de le retravailler, quelque chose qui a justement entre en vibration avec le temps contemporain, Laurent Godet? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a semblé devoir être raconté autrement?
Oui, c'est parce que c'est une pièce de théâtre qui est vieille maintenant. C'est une pièce de théâtre que j'ai écrite il y a une dizaine d'années, un peu plus. Et probablement, je pense en fait que le fait d'avoir envie d'y revenir, de retrouver ce personnage, de le laisser se déployer dans un autre espace qui est celui du roman, et ça change quand même beaucoup de choses, tient aussi au fait que 12 ans ont passé et que je suis plus tout à fait le même. Et c'est aussi important que d'écrire ou pas par rapport au monde. C'est-à-dire que c'est aussi le bonhomme qui a changé. Quand bien même je reprends le même personnage, ça ne peut pas être la même histoire, puisqu'entre temps il m'est arrivé des choses, j'ai fait des expériences nouvelles, je me suis frotté à d'autres réalités, et forcément quand j'écris avec elles au pluriel. Elles sont là, elles sont en moi, elles sont définitivement en moi.
Ces expériences-là.
Oui.
Qu'est-ce que ça change de projeter dans le roman? Vous dites c'est définitivement très différent. De projeter ce personnage, Salina, de femme, et ses trois exils dans un roman.
J'ai commencé le roman en me disant ça va être une expérience d'écriture aussi, de dire évidemment j'avais la pièce très en tête encore, et rien que de se dire eh ben maintenant c'est un roman, ça ouvre des espaces d'écriture qui n'existent pas dans le théâtre.
Comme quoi?
Comme par exemple très concrètement dans le livre, le personnage du fils qui raconte l'histoire dans le roman, il n'existe pas dans la pièce. Et encore plus précisément, le roman passe beaucoup de temps à, si je puis dire, à marcher avec Malaka et sa mère. C'est-à-dire que pendant longtemps, on les voit marcher tous les deux dans des grands paysages désertiques, sur une montagne, avec tout ce qui se passe de corps à corps dans ces moments où simplement ils se taisent, ils ne parlent pas, mais ils marchent ensemble. Ça, c'est impossible au théâtre. Ou en tout cas, il faudrait le raconter. Mais le roman peut le vivre, entre guillemets, c'est-à-dire peut se mettre à côté des personnages et marcher avec eux. Donc il y a une utilisation de l'espace, il y a une utilisation de la temporalité aussi, qui est d'une certaine manière beaucoup plus libre au roman.
Le fils n'était pas là, dans la pièce de théâtre.
Le fils était le geste final de la pièce de théâtre, mais il n'avait pas de nom et il n'existait pas. On quittait Salina dans la pièce de théâtre, recevant cet enfant, mais qui n'était même pas... Enfin, quand on joue la pièce de théâtre, il n'y a même pas besoin d'un acteur pour faire ce dernier fils. Tandis que là, c'est vrai qu'il est le personnage un peu par lequel on rentre dans l'histoire, et puis surtout, il permet à l'histoire de se déployer aussi un peu ailleurs, notamment dans cette ville qui n'existe pas non plus dans la pièce, du coup, et avec ce cimetière qui n'existe pas. C'est-à-dire que c'est là où je dis ça ouvre un territoire, c'est qu'à partir du moment où le fils a 20 ans, moi, en tant que romancier, je suis bien obligé de me poser des questions. Alors, c'est qui? Il fait quoi? Il va où? Qu'est-ce qu'il va? Comment il va interagir dans cette histoire?
Et puis, plus généralement, c'est aussi un roman sur la responsabilité d'un fils à l'égard de sa mère. Tout ce que ça engage. Et donc, en effet, c'est un autre texte, en fait.
Absolument.
On en écoute un extrait par Romain de Bec de Lièvre.
Salina prépare un feu. Il attend qu'elle parle, comme elle le fait toujours. Il a hâte. Il en a toujours été ainsi. Le soir, lorsqu'elle a lavé les plats de cuivre en les frottant de sable, elle parle. Et le jeune homme s'est toujours empli avec avidité de ses mots, pressentant qu'il lui était donné pour qu'il grandisse. Toutes ses histoires, tous ses récits. Plus que tout le reste, elle lui a donné cela, l'or de veiller toujours recommencer. Mille fois, elle a raconté des épopées étranges, des batailles, des mythes barbares. Mille fois sont passées l'époque brutale dans laquelle elle était née. Il écoutait tout, avec avidité, sidéré qu'il puisse y avoir tant de mots dans cette femme. Que sa mère, qui ne vivait rien d'autre que ses journées longues passées à ses côtés, ses journées de marche, de campement, de survie, ait pu avoir une vie si pleine de blessures et de fracas. Il a cru parfois qu'elle inventait, mais ce sentiment a vite disparu. Elle avait dans la voix des fêlures qui ne mentent pas. Quelque chose en elle se brisait parfois. Elle butait toujours sur le même nom, s'essuyait les yeux toujours à l'évocation de la même scène. Il veut l'entendre raconter les récits qu'il connaît déjà et qu'il a envie de retrouver. Mais elle ne le fait pas.
Elle ne le fait pas, cette mère, Salina, et c'est lui qui va le faire. La figure du fils dont vous disiez, Laurent Godet, il n'existait pas, ou si peu, dans la version précédente de ce texte qui était une pièce de théâtre. Romain de Bec-de-Lièvre lit ce moment où il se retrouve. Elle a eu peur qu'il ne se retrouve pas. Le texte commence par... pas exactement, mais commence par la peur de la mort du fils. Et c'est une sorte de retour du fils prodige et d'une sorte d'enfoncement dans la nuit des récits. Et Laurent Godet, c'est pas la première fois que la question de la parole, du récit, de qu'est-ce que c'est que de faire partie d'une lignée de voix, est mise en scène très intensément dans vos textes. Est-ce que ça veut dire que être pour un temps celui qui raconte, c'est le fondement de votre rapport à l'écriture ?
Ah bah oui, oui. Vu la vie que j'ai embrassée, oui. Assumer d'être celui qui raconte, c'est à la fois ce qui me passionne dans la vie que j'ai, et puis en même temps, ça pose des tas de questions dans tous les sens. Qui on raconte, comment on le fait, est-ce qu'on est à la hauteur du récit, à quel moment est-ce que je sais que je ne l'ai pas été, avec quoi on se donne rendez-vous dans le récit, enfin bien sûr. Et puis au fond, ça raconte quoi à la fin? Est-ce que ça nous raconte nous? Est-ce que ça raconte véritablement les autres? Enfin, toutes ces questions-là sont des questions que je n'ai pas l'impression de vivre dans les questions, parce que mais enfin oui, dès qu'on essaie de construire une histoire, on est confronté à ces questions-là. Moi, je les trouve passionnantes parce que fondamentalement, je pense qu'on est fait de récits. Et je parle pas du tout des gens qui ont à voir avec l'écriture de près ou de loin. Je parle de chacun d'entre nous. Je pense que on est fait des récits familiaux qui nous ont construits. Notre existence est aussi l'occasion de réinterroger ces récits familiaux, de les explorer, de les confronter avec une certaine vérité éventuellement. C'est des parcours d'apprentissage d'aller interroger ces récits-là. Est-ce que c'est vrai ce qu'on m'a dit? Est-ce que c'est vrai que je suis vraiment l'enfant de ceci, de cela? Qui étaient mes parents? À quel moment ça s'est joué pour eux? Et donc, qu'est-ce qui ça a déposé en nous? Enfin, toutes ces questions, en fait, qui sont les questions à la fois de la transmission, mais aussi de la construction de ce qui fait un individu, en fait, sont des questions qui ne sont jamais très loin de la question du roman, en fait.
Bien sûr, et d'ailleurs j'emprunte cette phrase-là, être un temps celui qui raconte, parce que c'est une phrase de votre roman, Laurent Godet, à la toute fin, le fils qui est celui qui raconte, après que la mère a été tant celle qui raconte. Vraiment, la scène que vient de lire Romain de Bec-de-Lièvre, c'est un moment où elle arrête de parler, et c'est lui qui va devoir le faire, et un peu plus tard dans le temps, il va devoir le faire pour offrir une sépulture, une tranquillité dans la mort à sa propre mère, puisque voulant gagner un cimetière réservé aux étrangers dans une ville et sur une île, il doit compter la vie de sa mère pour que sa mère puisse reposer tranquille dans cet endroit. Ce qui vient aussi à l'esprit, puisque vous disiez que certes, peut-être ce texte-là n'écrivait pas directement à partir du monde contemporain, mais en tout cas peut-être en vibration avec celui-ci, c'est toutes ces vies que nous ne racontons pas. Et je pense que c'est assez important de se pencher là-dessus. Moi, j'ai beaucoup pensé à un très beau livre de Judith Butler qui s'appelle « Ce qui fait une vie » et qui dit l'importance de raconter les existences. Et qu'il y a beaucoup d'existences qu'on ne raconte pas. Et que ces existences-là, en fait, elles ne sont jamais mises en deuil. Elles n'ont même pas de sépulture. Elles n'ont même pas la dignité de la pré-existence terrestre. Et je crois qu'on vit une époque où c'est une question, à mon avis, qui va au-delà de la littérature.
Mais je suis tout à fait d'accord et je souscris à ce désir, je dirais même à ce fantasme de l'écriture. C'est-à-dire, je crois qu'il y a dans le geste de l'écriture, fondamentalement à la base, si je puis dire, cette espèce de rêve de pouvoir dire des existences, c'est-à-dire de les faire monter dans la barque de quelque chose qui j'ose pas dire éternel, mais qui soit un peu plus long que le temps précis de la vie. Et de dire, au moins si je le raconte, ça durera un peu plus que la simple existence de cette personne. Alors après, chacun fait ses choix. Ça peut être raconter les morts pour qu'ils vivent un peu plus. Ça peut raconter les vies invisibles qui sont encore vivantes, mais que, comme vous le dites, personne ne raconte. Les vies socialement oubliées... déchu du regard et de la voix. Et il y a beaucoup d'écritures et c'est le même geste en fait. C'est faire là aussi faire monter dans la barque du souvenir et de la parole des existences qui sinon finiraient trop vite. Et puis comme vous le disiez tout à l'heure, c'est même pas dit. C'est-à-dire que ça, c'est une injure encore plus forte. C'est insupportable. D'ailleurs, quand on est confronté à quelqu'un qui ne veut pas vous écouter, c'est une violence inouïe. C'est-à-dire qu'avoir quelque chose à raconter et ne pas trouver l'endroit où la personne a qui le dire, c'est on reste avec ça et c'est d'une frustration. Il y a de quoi enrager. Donc prendre le temps de raconter et prendre le temps d'écouter le récit qui vous est fait, je crois que c'est déjà des cadeaux en fait, parce qu'on offre du temps en fait.
Et ça inscrit dans le monde social, puisque vous parlez de cette barque, on peut considérer que c'est un texte qui est un fils qui parle, en fait, hein, tout au long d'une barque où il fait une traversée des vivants pour déposer sa mère morte dans un cimetière, qui demande à ce que la vie soit racontée avant que les portes ne s'ouvrent. Et il se trouve que, bon, on va dire, elle s'ouvre, à la fin. Elle s'ouvre. Et ça lui permet de déposer la vie de sa mère en récit dans le monde des vivants, qui lui font la promesse qu'elle existe désormais. Et donc c'est aussi dire la force du récit qui est, parce qu'on a dit, parce qu'on a parlé, alors d'un seul coup, on peut être certain que la vie en récit intègre le monde social, le monde des vivants, et pourra peut-être continuer d'être dite.
Mais parce que je pense que le récit est la première étape du partage. Ça ne le garantit pas, mais ça le rend possible. À partir du moment où quelqu'un a raconté la vie de quelqu'un, on peut envisager qu'ensuite, ce récit soit partagé, repris, alors peut-être par fragments, peut-être pas dans sa totalité, mais ça commence à devenir une aventure collective potentielle. Tant que les choses ne sont pas mises en mots, ça ne concerne que la personne qui connaît ce récit, mais donc c'est ce qui arrive à Malaka, effectivement, à partir du moment où il a raconté l'histoire de sa mère, il se rend compte que les villageois qui l'ont entouré, qui l'ont accompagné, qui sont sur ses barques autour de lui, se dispatchent à la fin du roman, chacun retournant à sa vie, mais retournant avec l'histoire de Salina, qui dorénavant sera potentiellement une sorte d'histoire qu'on se racontera, ou de mythe qui cimentera quelque chose de l'identité de cette ville. En tout cas, c'est possible.
D'autant plus que c'est une histoire de paix, entre autres.
En plus. France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Laurent Godet.
La tragédie traduit, je reprends les formules bien connues de Hegel, le sentiment d'une conscience déchirée, d'une contradiction qui n'est pas résolue, et que la lecture des tragiques, et de tous les tragiques, sous des formes diverses, montre qu'il y a bien dans ce genre quelque chose de particulier qu'on ne trouve pas du tout dans l'épopée, qu'on ne trouve pas dans la poésie lyrique, qui ont précédé comme genre la tragédie, c'est justement ce sentiment qu'on se trouve en présence d'un monde où il y a des contradictions, où il y a des polarités, et où l'homme lui-même est déchiré devant un monde divin, même chez Eschyle. Mais cette justice, elle est tout à fait opaque, obscure, elle est difficilement saisissable du point de vue de l'homme.
Mais je suis tout à fait d'accord sur ce que vous dites dans l'ensemble, sur ce problème, mais on pourrait en un sens retourner les choses parce que la justice n'est opaque que parce que les hommes s'arrogent le droit de s'interroger sur elle et essayent de comprendre et essayent de prendre une place plus grande. On n'est déchiré que quand on veut avoir sa place.
Oui, mais en même temps, ce que montre la tragédie...
C'est qu'on n'y arrive pas.
Oui, c'est que c'était une humanité qui est comme cela.
C'est formidable. 21h34, c'est Jacqueline Doromilly et Jean-Pierre Vernant qui discutent à votre table, pas exactement en 1971, de la tragédie grecque. Il faudrait les réécouter une troisième fois parce que... Bon, je dis une troisième parce que moi je les ai déjà écoutées.
Non, c'est oui, c'est montages. Dense.
Hein. Mais parce que c'est dense, c'est très très beau ce qu'ils disent l'un et l'autre. Tout à l'heure, vous disiez, Laurent Godet, votre attachement à la tragédie, mais en fait c'est aussi un attachement qui se voit dans les motifs de ce roman-là, Solina, parce que il y a des héroïnes, il y a des héros, il y a des combats fratricides, il y a des fleuves à traverser, il y a des moments initiatiques, il y a des exils que sont le fait de grandir et de quitter les siens, comme si vous aviez tant aimé ça, ou comme si vous aimiez tant ça, que les motifs du tragique et de la tragédie sont en vous.
Ben, tant mieux, si vous le sentez. Non, c'est des choses qui me touche et que je pense que dans une certaine mesure, alors pas tout, mais que oui, j'ai fait mien, j'ai intégré, parce que c'est pas parce que j'ai passé du temps dans les bibliothèques ou que ça m'intéresse d'un point de vue littéraire, c'est parce que fondamentalement, je pense que si la tragédie n'est pas morte, n'est pas devenue une forme littéraire lointaine, historique, sur laquelle on pourrait se pencher maintenant avec des regards d'archéologues en disant tiens, il y a eu ça à un moment, ça a existé. Si c'est encore aujourd'hui quelque chose qui peut émouvoir, qui peut faire pleurer quand on va au théâtre, c'est parce que ça dit quelque chose de l'existence. Le génie de la tragédie, c'est d'avoir réussi à dire quelque chose de chacune de nos existences. J'aime beaucoup l'expression qu'emploie là Vernant dans l'extrait que vous passiez, la conscience déchirée. Je pense que c'est ça qu'on pourrait presque étendre à la littérature. C'est-à-dire que, effectivement, je crois que la tragédie est le lieu de la conscience déchirée et donc aussi le lieu où n'est pas invité le dogme, où n'est pas invité la conscience monochrome et unie. Parce que tout se fissure à un moment donné et que la tragédie implique qu'on accepte ce moment de fissure. Probablement, effectivement, dans l'épopée, c'est moins vrai. Parce que l'épopée est aussi le lieu de l'exaltation de quelque chose et que donc on peut être dans une parole qui, par le souffle qu'elle inspire à ceux qui écoutent, est du côté peut-être de la célébration un peu unique. Il y a des épopées plus complexes, mais on voit à quel point là les deux choses divergent un peu et que la tragédie laisse l'homme toujours, toujours un peu fêlé.
En galère.
Ouais.
Jean-Pierre Vernant parle d'un monde avec vraiment des contradictions et des polarités, mais il dit aussi, c'est pas lui, c'est Jacqueline Doromilly qui dit, mais si l'homme est déchiré, c'est parce qu'il veut avoir une place.
Oui, mais alors là j'avoue que j'ai pas compris quelle serait l'autre option.
Ne pas s'octroyer l'idée que sur cette terre, les humains ont une place d'humain à réclamer. Peut-être que ce qui est discuté dans cette archive, c'est la manière dont les humains se dirigent vers le monde divin, le monde des dieux, le monde du destin, la parole qui les dirige, pour éventuellement la remettre en question. C'est ce qui est dit dans l'archive à propos de la justice.
Oui, oui, mais comme ils font référence à la justice, je pense que qui est effectivement un des thèmes dès l'Orestie, on est dans le cycle de la vengeance et la question de la justice. Comment ne pas aller vers là? Comment ne pas se poser la question de la justice humaine? Comment accepter? Là, j'ai du mal à saisir encore une fois ce que serait l'autre option parce que
dans tout cas, c'est clairement pas l'option que vous faites prendre à votre personnage Salina, qui en permanence va les interroger, ces règles de justice là, les règles ancestrales, la manière dont elle est condamnée à vivre des choses, la manière dont elle fait face à des lâchetés en raison justement des dogmes et des règles ancestrales. Elle fait le choix de vouloir avoir une place.
Bien sûr, et puis cette question de la justice, c'est par exemple, c'est pour moi, c'est un thème qui vibre avec le monde d'aujourd'hui. C'est-à-dire que il m'est arrivé de reprendre dans une prise de parole publique vis-à-vis du monde d'aujourd'hui la question qui est dans Antigone, des lois non écrites. C'est-à-dire qu'effectivement, si vous
concernant
si vous,
l'Aquarius,
concernant l'Aquarius, absolument. Je pense que l'Aquarius est le symbole que on ne peut pas réduire la question uniquement en pensant aux lois qui existent. Il y a aussi des lois non écrites, ça existe depuis Antigone. Et ces lois-là, il y a certains moments où on doit accepter de les entendre et de les suivre même. Parce que si on ne le fait pas, c'est une petite part d'humanité qui disparaît. Donc je comprends bien que la justice est multiple, et c'est tout le débat de la pièce Antigone, la justice des hommes face à ces lois non écrites, la friction qu'il y a entre les deux, chacun étant dans sa logique, Antigone et Créon, mais ça se rejoue à chaque époque. Et il y a des moments où effectivement la parole tragique est là pour dire que la justice de la cité n'est pas la seule, c'est pas vrai.
Qu'est-ce qu'elle demande comme place, Salina, votre personnage de Salina aux Trois Exils?
Salina, elle demande réparation. Et c'est à la fois sa force, son courage, et puis son leurre. C'est-à-dire que elle a été on lui a fait violence, on l'a privée de la vie qu'elle espérait, elle n'a pas été mariée à l'homme qu'elle voulait, celui qui lui a été imposé l'a violée, en fait, concrètement. Donc il y a des blessures énormes et donc une colère juste, et elle demande réparation de cela. C'est là où elle devient, au fur et à mesure qu'avance le livre, ou presque pathétique, c'est-à-dire que elle a raison, et en même temps on sait très bien qu'elle n'aura pas réparation. La vie ne repasse jamais en arrière en disant ben, finalement oui, on va repartir du point zéro et on va faire autrement, ça n'existe pas ça. Donc le temps passe, elle s'inscrit elle dans un désir de vengeance qu'on voit naître, qu'on suit, elle va jusqu'au bout de cette logique-là, et avec brio, si je puis dire, parce qu'elle est particulièrement sanglante et rageuse. Et la question que pose le livre au bout d'un moment, c'est comment est-ce qu'on en sort de cela? C'est pas qu'elle avait raison, même si on pouvait comprendre ce qui l'a amené vers ce désir de sang, on sait que ça ne peut pas se terminer comme ça, c'est pas vrai, donc comment ça se termine?
Et c'est une femme qui se bat parfois devant d'autres femmes, et il y a une scène assez importante qui est, bon, évidemment la scène du viol, mais avant ça, et ça la jouxte presque, la scène de ses premières règles où elle est au fleuve, elle s'aperçoit qu'elle perd du sang, et d'un seul coup elle devient une proie. Très rapidement après, elle va être mariée de force, et comme vous le disiez à l'instant, Laurent Godet, ce mari va la violer. Si bien que de la tragédie générale, on en arrive à la tragédie des femmes, et là encore, c'est pas la première fois, Laurent Godet, que vous faites des femmes l'endroit souffrant du monde que vous dépeignez.
En fait, l'histoire des premières règles, c'est une des choses qui m'a mené à ce personnage-là. Je me souviens très bien, et je parle là de la pièce de théâtre qui a 10 ans, voire plus, cette scène-là de Salina vivant pour la première fois avec stupéfaction parce que personne ne lui a parlé de ce qui allait lui arriver un jour, ses premières règles, ce sang qui s'échappe d'elle et qui souille d'abord la rivière et puis la terre qui est autour. C'était pour moi, c'était vraiment une des choses qui est constitutive du personnage. Je voulais que ça commence comme ça, avec cette idée que d'abord je trouve qu'on parle peu en littérature de cet événement considérable. Je suis pas une femme, je ne saurais jamais ce que c'est que de vivre ses premières règles et puis ensuite les règles en général, mais ça fait quand même une différence absolue entre les deux parties de l'humanité. Ça inscrit très tôt, très vite, la femme dans un rapport au monde qui est un rapport cyclique, par exemple, alors que les hommes ne connaissent pas du tout ça. Ça inscrit aussi, j'imagine, très vite une proximité avec les flux, avec le sang. Et de ce point de vue-là, les hommes sont très longtemps préservés de la vue du sang, du toucher du sang. Donc tout ça est absolument considérable. Et puis surtout, ça devrait être, dans une situation idéale, ça devrait être un moment, peut-être pas de joie, mais en tout cas simplement de passation. On passe à autre chose, le corps devient différent, et puis c'est même assez joyeux, disons-le. Allez, c'est le début de la sensualité, c'est le début du possible plaisir, c'est le début de tas de choses. Et là, je parle à la fois du livre et à la fois du monde d'aujourd'hui, on sait que dans pas mal de cas, c'est le début de la prédation. C'est le début de la prédation masculine.
Et d'ailleurs, peut-être qu'on lui en a pas parlé, mais cette scène se termine sur ces mots à elle, où elle dit « je ne veux pas, je ne veux pas ». C'est bien qu'elle a en elle des récits inconscients ou silencieux qui savent que ça fera d'elle, que ça fera d'elle une proie. Mais je pense aussi, en vous écoutant, Laurent Godet, puisque on découvre que c'était une scène fondamentale dans l'écriture de Salina, à une autre phrase qui est « grandir est un exil ». On parle des trois exils de cette femme Salina, mais en fait, elle, comme son fils, comme d'autres, vivent le fait de passer de l'enfance à un autre âge, qui serait un âge vers l'âge adulte, pourquoi pas cette bascule des premières règles, comme un exil fondamental. Vraiment, il me semble que c'est un texte qui travaille énormément autour de cette phrase-là. Grandir est un exil.
Mais ça me renvoie peut-être à ma propre vision de la vie, en tout cas jusqu'à maintenant. J'ai du mal, moi, justement, avec la notion de cycle. Je le vis pas comme ça. J'ai du mal avec les anniversaires, quels qu'ils soient. J'ai du mal avec même le calendrier annuel. J'ai l'impression...
Vous auriez du mal avec des règles, alors?
Sûrement. Sûrement. Peut-être que ça m'inscrirait davantage là-dedans, mais j'ai toujours vécu aussi parce que le travail d'écriture, n'est pas de cet ordre-là, c'est-à-dire qu'il y a un chemin, plutôt. Moi, je le vois plutôt comme ça. Il y a livre après livre, aucun livre n'est le même que le précédent. On avance. Ça ne veut pas dire que c'est mieux avant ou que c'était mieux après. C'est que simplement, c'est une route. Et de ce point de vue-là, je serais plutôt effectivement tenté de dire que chaque pas fait en avant nous fait quitter la station d'après. C'est
définitivement.
Définitivement, on n'y reviendra pas. C'est tout cool. D'Héraclite, voilà, on ne se baigne jamais deux fois dans la même rivière. Alors, c'est pas triste, hein, mais c'est un exil au sens où chaque instant est aussi le moment où on se sépare de l'instant d'avant. Voilà, c'est comme ça. Et on avance avec ce mélange, comme en plus, si on est d'une nature légèrement nostalgique, comme c'est mon cas, on avance toujours avec à la fois le plaisir de découvrir ce que va être l'instant à venir, et en même temps avec cette espèce de petit pincement de dire que ce qui était bien et ce qui est derrière ne sera plus jamais vécu tel quel. Voilà, c'est comme ça qu'on avance.
Est-ce que cette conscience aiguë de l'exil du temps qui passe, d'une certaine manière, Laurent Godet, vous rend, même si ce sont des choses qui demeurent distinctes, vous rend sensible à l'exil qui est l'arrachement d'un pays qui fut le nôtre pour vivre dans un autre pays? Est-ce que vous diriez que tout de même, ça rentre en résonance, ces deux exils-là?
Oui, je pense, parce que sinon je ne vois pas d'autres raisons qui font que je suis depuis si longtemps si ému par les questions d'exil, de déplacement de population. Ça ne fait pas partie de mon histoire familiale, ça ne fait pas partie de l'arbre généalogique, en tout cas pas de manière très directe. Après, je pense que toute famille a cette histoire-là en elle, mais je n'ai pas été bercé par ces choses-là. Et il y a effectivement, depuis le tout début, l'écriture va assez naturellement se frotter à ces questions-là, mais je pense que c'est l'image de ça, de cet exil du temps. Et puis c'est aussi l'image, on revient à la tragédie, de cette espèce de chose autour duquel tourne la tragédie en permanence, c'est que dans nos vies, nous avons rendez-vous avec la bascule du bonheur au malheur. C'est comme ça. Ça fait partie de l'existence. C'est un peu terrible de le dire à 21h47 sur France Culture, je suis désolé, mais il y a ce moment-là qui fait partie du cycle de la vie où on a construit quelque chose, on a bataillé pour, on l'a fait avec bonheur, avec réussite parfois, mais à un moment donné, encore une fois, l'arc de la vie, c'est que on va perdre.
Mais vous dites ça parce que c'est une bascule de la vie à la mort? Ou vous dites ça parce que vous pensez que le rendez-vous avec la bascule vers le malheur est le point tragique inévitable?
Quand je dis le malheur, alors il faudrait préciser, c'est pas forcément le malheur total, c'est simplement par exemple la perte. C'est pas forcément sa propre mort, mais c'est simplement que le monde petit à petit se troue quand même. On va perdre des gens qu'on aimait, qui faisait partie de notre histoire, de notre monde, qui était constitutif de choses. Et le manque grandit au fur et à mesure qu'on avance. Donc c'est en ce sens-là. Alors après, là où j'aime beaucoup le stoïcisme ou l'épicurisme, ou ces choses-là qui, d'abord, ont la vertu de regarder cette chose-là en face, et d'ensuite d'en parler non pas de manière abattue, découragée et déprimée en disant de toute manière plus rien ne vaut le coup puisque tout va finir, au contraire de dire ça donne un point d'arrivée à nous ensuite de trouver une philosophie ou une position de vie qui consiste à profiter du chemin avec ivresse, même, pourquoi pas, avec bonheur, avec joie, en dansant, en chantant, en faisant ce que vous voulez.
Comment vous vous rattrapez à 21h48?
Voilà, je suis pas en train de dire que tout est terrible, parce que je pense très sincèrement que moi je suis plutôt un être de vie, je crois. Mais simplement, il y a cette limite qui n'est pas simplement la limite de notre propre mort, encore une fois, qui est la limite de, à un moment donné, on sait que ça s'effrite.
La longue toilette du fils à la mère commence. Il a mélangé de la sève d'arbre avec de l'eau des ruisseaux. Il a parfumé la décoction avec des herbes aux odeurs vives. Tout est prêt. Il hésite un temps devant le corps de sa mère. Sa nudité le gêne. Les seins flasques comme des poches vidées. Les poils du pubis clairsemés. Les chairs des cuisses un peu molles et les cheveux lâchés. Il les a si rarement vus ainsi. Salina porte toujours son voile bleu sombre qui la protégeait du vent et du sable. Il reste immobile, se demande s'il y parviendra. Il doit se forcer, passer outre sa gêne. Le corps qu'il a sous les yeux n'a plus de pudeur. Il est mort. Elle est nue comme l'est l'arbre, comme l'est la roche. Il va passer sa main dessus et ce sera comme de la passer sur un tas d'humus ou le long de l'écorce. Mais il hésite encore. Puis enfin, il prend les doigts de la vieille femme dans sa main et, avec la précaution d'un soignant, les imbibe un à un, à l'aide d'un tissu, du baume qu'il a confectionné. Il va lentement. De chaque doigt montent les souvenirs d'autrefois. Il les sent, les laisse s'échapper, flotter un temps dans l'air, puis s'évanouir. Chaque doigt raconte et laisse partir ce qu'elle fut. Chaque doigt et ensuite chaque bras avec la même lenteur. C'est la longue toilette du fils à la mère. Cela prend des heures. Il ressent tout et lorsque la nuit tombe, il s'arrête, conscient qu'il ne doit rien presser. Le lendemain, il poursuit. Et le jour d'après encore. Il continue. Soulève la tête. Prend plus de temps encore pour le visage. Il faut être minutieux. La bouche, avec tous ces mots prononcés, crachés, tous les mots jamais sortis qu'elle n'a pu articuler et qui sont morts en elle, comme de petites choses non nées. Et puis, c'est au tour de ses lèvres. Une journée entière pour les fermer doucement, et qu'elles ne se figent pas dans un rictus de douleur ou d'ennui, mais qu'elles esquissent un sourire, une courbe douce, calme. Le fils passe une dernière fois les mains sur la morte. Il glisse sur la dépouille, jour après jour, jusqu'aux jambes qui ont tant marché. Une vie entière à ne faire que cela, de la naissance à la mort. Les routes, les sentiers de pierre ou de sable, de terre sèche ou d'exil. Il glisse sur son ventre, sur son sexe même. Tout remonte. Il ferme les yeux, laisse résonner en lui ses odeurs de vie, des sensations du passé enfouies dans la chair et que la chair libère en fondant. Tout est là, dans ce corps qui s'assèche et laisse échapper une dernière fois sa mémoire.
Tout est dans ce corps de la mère lavé par le fils, Laurent Godet. Ça aussi, c'est une scène qui me semble vraiment fondamentale dans ce roman, Salina, et à plusieurs égards. Peut-être le premier, c'est bien redire que c'est un roman sur cette relation filiale, et même sur une relation filiale éclatée, puisqu'il est le fils de deux mères, cet homme qui parle, et que quand il se retrouve face à la mort de celle-ci, il doit à la fois faire face à la mort et faire face à la méconnaissance de sa mère. Et c'est très beau parce que c'est vraiment une sorte de vague à deux mouvements, quoi. À la fois, il dit sa vie, donc on doit constater qu'il la connaît un peu, et il ne cesse de dire qu'il ne la connaît pas.
Oui, parce que je pense que c'est un peu ce qui se joue là encore pour chacun d'entre nous, le moment où on connaît ce qui nous entourent, ceux qui nous aiment, mais qu'est-ce qu'on connaît d'eux? On connaît une suite chronologique sur laquelle on peut mettre quelques événements, ou beaucoup d'événements, si on a eu l'occasion et la chance de parler avec nos parents, nos grands-parents. Mais il y a quelque chose qui nous échappera toujours, de toute manière, c'est le ressenti des personnes en question sur ces événements. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de tout cela? Qu'est-ce qui les a traversés? Quelles ont été leurs émotions? Tout ce monde-là qui est quand même 80% de nos existences, le monde intérieur, ça, de toute manière, ça file, ça disparaît, et ça se transmet rarement. On peut le dire parfois, j'ai été heureux à tel moment, telle journée a été finalement un petit miracle dans mon existence. Mais on peut pas le saisir en permanence. Et donc, au fond, je trouve que la vie, elle est presque plus de ce côté-là que dans juste le défilé des petits faits. Donc ça nous échappe.
Il y a autre chose qui fait de cette scène une scène importante, au-delà de sa grande émotion, c'est l'idée que tout ce qu'on a dit sur le récit, sur le fait de dire les vies, de raconter la vie des humains, d'un seul coup est comme profondément inscrit dans le corps. C'est en lavant le corps de sa mère que presque chaque doigt, ongle, morceau de peau a son truc à dire.
Oui, ça, j'aimerais bien que ce soit comme ça. Ça, c'est un fantasme d'écriture. Mais c'était une manière pour moi de convoquer aussi la question de la... En fait, je pense que la question de la consolation, en fait. La consolation, je trouve qu'est une très belle notion parce qu'elle est... En fait, elle est assez humble. Consoler, c'est pas guérir. Consoler, ça n'est pas sauver. C'est autre chose. C'est être à côté et soulager quand même un peu, mais sans régler le problème, pour le dire de manière un peu triviale. Et en fait, c'est pas rien, c'est peut-être là que se situe un peu de dignité humaine aussi. Le temps qu'on prend à consoler, à accepter d'être celui qui écoute, par exemple. Alors souvent, ça passe par les mots. La plupart du temps, la consolation passe par les mots. Accepter de recevoir ce que l'autre a à dire, en pleurant, en se soulageant. Et puis, il y a aussi, je crois, une consolation qui est moins souvent racontée, qui est celle du rituel. Il y a une consolation des corps. Le rituel, il est inventé pour ça, c'est-à-dire avoir un certain nombre de gestes à faire dans un certain ordre, c'est une manière aussi d'apaiser les corps.
Et puisqu'on a dit que ce texte entrait en résonance avec le monde contemporain et qu'on a commencé par la dignité humaine, je n'ai pas pu m'empêcher de voir dans cette toilette faite à la mère par le fils, et bien précisément tous les corps qui ne sont pas touchés en ce moment, aujourd'hui, tous les corps vieillissants par exemple, mais aussi certains corps d'enfants ou des corps morts, puisque vous citiez l'Aquarius, dans la mer Méditerranée, sans aucun rite funéraire.
Et ça nous ramène à cette passerelle permanente entre le monde antique et le monde d'aujourd'hui, la question du corps qui n'est pas rendu à la famille. C'est bouleversant. Et c'est depuis le début dans les récits de l'humanité. C'est, encore une fois, on en revient à Antigone, on en revient à la guerre de Troie. Quelle douleur terrifiante de ne pas avoir le corps de celui qui manque. Elle démultiplie encore le deuil, parce qu'il y a un apaisement à recevoir le corps du défunt. Il y a un apaisement à pouvoir se dire, je vais m'en occuper, je vais choisir un endroit où il sera. Et effectivement, les morts en Méditerranée, ils sont volés à tout le monde, et ils sont du coup oubliés de tous, même de ceux qui les aiment, non pas dans l'intensité des sentiments qu'ils vont avoir à leur égard, mais simplement parce que ils ne pourront plus poser la main sur un endroit où ils les ont enterrés.
Merci beaucoup Laurent Godet. Salina, les trois exils, c'est le titre de votre roman et il est paru chez Actes Sud.
Merci.
I made a small, small song. I made a small, small song. I sang it all night long, all through the wind and rain, until the morning came. This song is mine.
Au son ce soir, c'était Pierrick Monsigny à la réalisation, Charlotte Roux. Vous pouvez réécouter cette émission sur franceculture.fr, évidemment vous abonner au podcast. Un grand merci à Jeanne Aléos, Luke Vauvillier, Romain de Bec-de-Lièvre et Marianne Chassor. Dans un instant, vous allez retrouver le journal. Moi, je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.